suppliant le Seigneur de donner ce soir ce qui doit être donné. Il m'a mis à cœur quelques courts passages en ce qui concerne sa grâce. Ce n'est point un sujet nouveau, c'est un sujet que chacun connaît, mais j'aimerais que ce soir, notre regard vraiment se porte sur celui qui est venu jusqu'à nous. Cette grâce de Dieu qui apporte le salut. Nous nous sommes habitués au cours des années à entendre parler de la grâce. Nous sommes au bénéfice de nombreux privilèges. Nous le confessons, mais y a-t-il dans nos cœurs cette appréciation profonde en face de cette grâce universelle qui aujourd'hui encore peut toucher n'importe qui? J'aimerais rappeler tout d'abord deux versets en Genèse 9. Nous lisons les versets 18 et 19 de Genèse 9. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, et Cam et Japheth. Et Cam fut le père de Canaan. Ces trois sont fils de Noé, et c'est d'eux que la population fut disséminée sur toute la terre. Ce n'est pas à l'aventure, mes amis, que Dieu nous donne ainsi le nom des fils de Noé, le nom de ceux qui étaient à l'abri dans cette arche, alors que le jugement fondait sur cette terre qui était déjà corrompue. Ces trois fils de Noé ont dû réaliser quelque chose de cette grâce infinie qui les avait mis à l'abri dans cette arche du salut. Et ce qui est extrêmement touchant et intéressant et un enseignement, c'est que Dieu a voulu que dans le livre des Actes, au travers de trois chapitres, nous ayons la conversion d'un fils de Cam, d'un fils de Sem et d'un fils de Japheth. C'est un sujet donc d'une portée universelle. Dans le chapitre 8 des Actes, il est question d'un fils de Cam qui vient au Seigneur et qui continue son chemin tout joyeux. Et Dieu veuille que ce soir, nous continuions notre chemin nous-mêmes, chacun tout joyeux, porteur de la joie du salut que le Seigneur donne à quiconque se repent, à quiconque croit. Dans le chapitre 9 des Actes, Dieu a voulu que nous ayons alors la conversion, et quelle conversion, d'un fils de Sem, le nommé Saul de Tarse. Et Dieu a voulu, dans le chapitre 10 des Actes, que nous ayons là une connaissance remarquable d'un homme des nations, connaissance du Seigneur Jésus dans ce qu'il est et dans ce qu'il a fait. Un homme qui était pieux, qui était craignant Dieu déjà, avec toute sa maison, mais qui désirait connaître de plus près cette grâce infinie. Eh bien, arrêtons-nous, mes amis, un peu, devant cette grâce universelle qui peut toucher ce soir encore n'importe qui, je le répète, où que ce soit, dans quel pays que ce soit, et que nous ayons tous une impression de cette grâce divine qui a opéré, j'ai mal pensé, dans tous nos cœurs, et qui opère encore ce soir. Et une grâce qui porte les croyants vers un but glorieux, vers la maison du Père. Arrêtons-nous un peu sur le premier cas, sur acte 8. Nous lisons au verset 26, « Et un ange du Seigneur parla à Philippe, disant, « Lève-toi et va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, lequel est désert. » Et lui, se levant, s'en alla. Et voici un Éthiopien, eunuque, homme puissant à la cour de Candace, reine des Éthiopiens, intendant de tous ses trésors, et qui était venu pour adorer à Jérusalem, sans retourner. Il était assis dans son char et lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Et Philippe étant accouru, l'entendit, qui lisait le prophète Ésaïe. Et il dit, « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et il dit, « Comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Et il prie à Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Or, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau, muet devant celui qui le tond, ainsi il n'ouvre point sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. » Et l'eunuque répondant dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelque autre ?» Et Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à une eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il donna l'ordre qu'on arrêtât le char, ils descendirent tous deux à l'eau, et Philippe et l'eunuque. Et Philippe le baptisa. Et quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, car il continua son chemin tout joyeux. Mais Philippe fut trouvé à Azot. Et en passant au travers du pays, il évangélisa toutes les villes jusqu'à ce qu'il fût arrivé à Césarée. Passage important, mes amis, qui nous dit donc que Dieu ne peut laisser un besoin sans y répondre, que Dieu prépare Philippe l'évangéliste pour une mission et pour un message particulier. Philippe, l'évangéliste, aurait pu se poser des questions. Comment ? Dieu m'envoie sur un chemin désert, un chemin qui rappelle ce qu'est le monde, loin de Dieu. Personne sur un chemin désert. Mais pas de raisonnement, pas de questions. Nous lisons, en effet, après avoir entendu l'impératif « Lève-toi et va vers le midi », il est dit « Lui, se levant, s'en alla ». Il y a là, chers amis, une disponibilité qui doit être un enseignement pour chacun de nous. J'aime à penser que tous nous connaissons Jésus, sa main charitable, comme nous le chantons quelquefois, mais que nous réalisons bien que si le Seigneur nous laisse ici-bas, c'est pour être des témoins. Une disponibilité chez cet évangéliste qui doit se rendre sur un chemin désert. C'est là qu'il rencontrera cet homme, ministre des finances d'une reine probablement très riche, un homme qui est à la tête d'un cortège, certainement, Un homme qui donne des ordres, puisque nous avons lu qu'il fait arrêter le char. Un homme éduqué, parce que par deux fois, s'adressant à Philippe, il dira « Je te prie ». Ce n'est pas défendu d'être éduqué. Mais un homme qui a fait un long voyage avec le désir que Dieu réponde aux besoins de son cœur. Il n'y a pas encore de réponse, mais il a dans les mains ce qu'on lui a remis à Jérusalem. Et Dieu qui prépare toutes choses et qui connaît les besoins des cœurs, savait quel était le passage que cet homme devait lire sur le chemin du retour. J'aimerais que nous nous arrêtions aussi ensemble devant cette souveraineté divine, devant le fait que Dieu sait, que Dieu connaît les besoins des cœurs et qu'il ne peut laisser un besoin sans y répondre. Le passage qui est sous nos yeux est là, tellement précis, tellement remarquable. Il lisait le prophète Ésaïe, et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Il y a là aussi un enseignement, mes amis. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se rendre n'importe où, il faut une direction. Et Dieu veuille que tous nous connaissions cette dépendance du Seigneur pour dire quelque chose de sa part. C'est l'Esprit qui dit à Philippe, approche-toi de ce char. Important cela. Ce qui est à remarquer encore, c'est ce verset 30. Il nous est arrivé au cours des années de nous y arrêter, bien sûr. Il nous parle d'une façon particulière de la façon dont le Seigneur répond avec rapidité aux besoins d'un cœur. Il est dit, Philippe, étant accouru. Dans Luc 15, vous savez bien qu'il y a là une parabole composée de trois récits. Un premier récit qui parle du berger qui cherche la brebis égarée. Un second récit, la femme avec sa lampe qui cherche la pièce de monnaie dans une salle obscure, qui fait penser au Saint-Esprit, bien sûr. Et puis, troisième récit, le Père, qui voit le Fils repentant qui revient et qui court à sa rencontre. Ici, Philippe est accouru. En Luc 15, le Père court à la rencontre de celui qui se repent. N'oublions pas cela. Dans Luc chapitre 19, chacun connaît l'histoire de cet homme de petite taille qui a des besoins lui aussi, qui monte sur un sycomore alors qu'il sait que Jésus va passer. Jésus qui lit dans son cœur lui dit « Zachée, descend vite ». Remarquons bien ces mots, vous pouvez contrôler dans vos Bibles. « Zachée, descend vite ». Aujourd'hui, doit se passer quelque chose entre moi et toi. Tu as des besoins, Zachée. Tu n'es pas tranquille. Tu cherches la paix. Tu cherches la joie. Tu cherches un bonheur que tu ne connais pas, descends vite. Et c'est dans ce chapitre 19 de Luc qu'il est écrit que le Seigneur est venu chercher à sauver ce qui était perdu. Y aurait-il quelqu'un dans ce local qui ne soit pas sauvé? Quelqu'un qui n'ait jamais étendu sa main de perdu pour saisir celle de Jésus qui a été percé à Golgotha? Quelqu'un dont le cœur est resté fermé, insensible? Ami, serais-tu là ce soir sans connaître Jésus? Zachée, descend vite. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le temps agréable. Nous le rappelions du reste un de ces soirs. Et il y a même un quatrième passage. Je ne touche que ces quatre. Il y en aurait d'autres. C'est Ésaïe 6. Ce jeune Ésaïe, prophète, doit prononcer plusieurs malheurs sur ce peuple au cou roide, comme il est écrit, ce peuple qui est malade, de la plante des pieds au sommet de la tête. Mais dans le chapitre 6, alors qu'il a cette vision de la sainteté de Dieu, Ésaïe doit reconnaître que lui-même est perdu. Je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple tel. Et au moment où il reconnaît qu'il est perdu, qu'il est loin de Dieu, qu'est-il écrit? L'un des séraphins vola vers moi, tenant dans ses mains la pincette et ce charbon ardent. Et combien tout cela nous parle de celui qui a connu l'ardeur de la colère divine à cause de nous, le Seigneur lui-même. Mais remarquons ces expressions. Philippe étant accouru, le Père court à la rencontre du Fils repentant. Luc 15. Zachée descend vite, Luc 19. Ésaïe 6. L'un des séraphins vola vers moi. Le Seigneur vole au secours de quelqu'un qui se repent, qui confesse sa faute et qui pourra dire: je connais Jésus, il est mon sauveur. Je suis venu à lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde et qui a ôté mon péché. Un soir, j'étais très jeune, un cher frère avait tenu une réunion d'évangélisation dans notre contrée et il avait dit ceci, si ma mémoire est exacte: ceux qui ce soir ne sont pas au Seigneur, Dieu les voit comme des morts. Et je vois encore le geste, Dieu les voit comme des morts. Et ce soir-là, plusieurs cœurs s'étaient ouverts à la grâce de Dieu en Jésus. Philippe étant accouru, et il est touchant de s'arrêter, bien sûr, sur chaque expression de ce chapitre, mais le temps passe vite. Il l'entendit qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit: « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Et l'eunuque dit: « Comment donc le pourrais-je si quelqu'un ne me conduit ?» Vous voyez cette éducation. Et il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Comment le pourrais-je? Il dira même plus loin. De qui le prophète dit-il cela? Verset 34. Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelque autre? Ce n'était pas un sot, cet homme. Il savait, il connaissait certaines choses, puisqu'il dit: je te prie, de qui le prophète dit-il cela? Mais ce qui est extrêmement touchant, c'est que nous lisons plus loin, et Philippe, verset 35, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Philippe ouvrant sa bouche. Je me suis souvent posé la question, mais enfin, pourquoi est-ce que ce passage nous dit Philippe ouvrant sa bouche? On sait bien que pour parler, il faut ouvrir la bouche. Mais il y a, mes amis, une intention de l'esprit. On n'ouvre pas sa bouche n'importe comment et n'importe quand pour prononcer le nom de Jésus. J'ai même entendu dans votre pays, une fois, il y a longtemps, le chant d'un petit cantique qui soulignait que pour prononcer ce nom de Jésus, il faut se mettre à genoux. Philippe ouvrant sa bouche. Si nous lisons dans le livre de Job, j'aimerais quand même souligner le passage. Dans le 32 de Job, ce fait, après que les amis de Job se sont exprimés et n'ont pas parlé comme ils auraient dû parler de la part de Dieu, Elihu est là et lui va donner la pensée de Dieu. Et nous lisons à la fin du chapitre 32 de Job ces mots depuis le verset 18, « Car je suis plein de paroles, l'esprit qui est au-dedans de moi me presse. Voici mon ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert. Il éclate comme des outres neuves. » Et remarquons ce verset 20. « Je parlerai et je respirerai. » Et il y a un point virgule. « J'ouvrirai mes lèvres. » Et je répondrai. Je ne ferai pas exception de personne, je ne flatterai aucun homme, je ne sais pas flatter. Celui qui m'a fait m'emporterait bientôt. Mais remarquons cela, chers amis. Un homme qui est plein de paroles de la part de Dieu, qui va dire des choses justes au patriarche Job, mais qui réalise que quand on parle de la part de Dieu, il y a une révérence, il y a quelque chose qui est convenable. Je parlerai et je respirerai, point virgule. Philippe, ouvrant sa bouche, lui annonça Jésus. Ce nom donné sous le ciel par lequel il nous faille être sauvés. Le nom de celui qui a souffert pour toi et pour moi. Le nom de celui qui a dû s'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le nom de celui qui est le vivant, ayant vaincu la mort et celui qui en avait le pouvoir. Le nom de celui qui nous rassemble ce soir, chez lui, avec lui, autour de lui. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui va amener dans le cœur de cet homme un renversement total, mes amis. Y a-t-il eu dans nos cœurs ce renversement total? Nous nous sommes habitués au cours des années à entendre, je le répète, peut-être même à chanter des beaux cantiques, mais y a-t-il lu dans nos cœurs ce passage de l'état de mort morale à l'état de vie éternelle? Jésus, c'est ce nom qui fait que cet homme va passer des ténèbres à la lumière. De Satan à Christ, et de ce monde au Père. Je reprends ici les expressions que nous donnent les épîtres de Jean. Jésus. Et cet homme désire être baptisé comme sceau de sa foi, nous le comprenons. Et cet homme continue son chemin tout joyeux. Quelqu'un pourrait-il ce soir ne pas continuer son chemin tout joyeux? C'est capital, cela. Et plus le temps est mauvais, selon l'expression d'Éphésiens 5, 16, plus l'évolution est rapide, plus le croyant doit montrer ce qu'est la joie du salut, ce qu'est le bonheur d'un cœur qui a reçu Jésus. Plus le croyant est appelé à montrer ce que c'est qu'une conviction profonde, une plénitude d'assurance. Pensons à cela, chers amis. Nous qui connaissons cette grâce infinie, ce Dieu de la grâce et de la gloire, comme nous le chantons quelquefois, il continua son chemin tout joyeux. Chapitre 9e, c'est la conversion donc d'un fils de Sem. Nous avons touché l'Afrique, maintenant nous touchons l'Asie mineure et les alentours, bien sûr. Or, Saul, respirant encore menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla au souverain sacrificateur, lui demanda pour Damas des lettres adressées aux synagogues, en sorte que, s'il en trouvait quelques-uns qui fussent de la voie, il les amena hommes et femmes liés à Jérusalem. Et comme il était en chemin, il arriva qu'il approcha de Damas, et tout à coup, une lumière brilla du ciel comme un éclair autour de lui. Étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, il te sera dit ce que tu dois faire. » Et nous lisons au verset 11, à la fin, ces quatre mots, car voici, il prie. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cet homme devant les pieds duquel on déposait les vêtements alors qu'on lapidait Étienne. Cet homme qui, en acte 8 et au verset 3, ravageait l'assemblée, faut lire ce verset, or Saul ravageait l'assemblée, entrant dans les maisons, traînant hommes et femmes, il les livrait pour être jeté en prison. Quel homme que ce Saul de Tarse! Et c'est cet homme qui est arrêté dans ce début du chapitre 9, ce fils de Sem. Et cet homme est arrêté, étant appelé deux fois. Vous connaissez les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament où il est question que Dieu appelle deux fois quelqu'un. C'est important cela. Il t'a peut-être appelé deux fois déjà. As-tu répondu? Abraham, Abraham. Genèse 22. Jacob, Jacob. Genèse 46 au début. Samuel, Samuel. Au début, premier livre de Samuel. Moïse, Moïse. Début de l'Exode, quatre passages de l'Ancien Testament où Dieu appelle deux fois quelqu'un. Et dans le Nouveau, vous savez bien, Marthe, Marthe. Et dans Luc 22, Simon, Simon, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et acte 9, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? 3 jours pénibles pour Saul de Tarse, puisqu'il est écrit qu'il ne peut pas regimber contre les aiguillons. Ce qui s'est passé dans le cœur de Saul de Tarse pendant ces 3 jours. Oh, il en dira quelque chose dans le 26 des Actes en particulier, quand il parle au roi Agrippa. Nous pourrions, évidemment, lire ces passages. Nous n'en avons pas le temps matériel. Mais ce qui est remarquable, c'est que Dieu appelle qui il veut, quand il veut. Et Dieu se sert de servantes et de serviteurs disponibles. Ici, ce sera Ananias qui viendra de la part de Dieu parler à Saul de Tarse, qui viendra l'encourager, qui viendra lui montrer le chemin. Avons-nous montré le chemin à nos semblables, à ceux qui sont avec nous, autour de nous, qui travaillent peut-être avec nous et pour nous? Philippe l'évangéliste, acte 8, Ananias, acte 9. Et ce qui est touchant, ce sont ces mots, voici, il prie. Une des premières choses qui nous est donnée de Saul de Tarse, après avoir rencontré le Seigneur, voici, il prie. C'est l'humiliation, c'est la dépendance. Je dois être un homme de prière, avec le désir de ce contact, de cette communion avec le Seigneur. Et nos familles seront témoignage, chers amis. Nos assemblées seront témoignage. S'il y a des hommes et des femmes de prière, dans le particulier déjà, dans les familles. Et nos réunions de prière, où il y a souvent des places vides. Un frère de notre pays disait, une assemblée qui ne prie pas n'adore pas non plus. Que je sois un homme de prière. Que nous le soyons, chers amis. Pour le bien de nos familles, je le répète. Que le témoignage rendu par l'Assemblée soit vivant, un témoignage à la pleine suffisance du beau nom de Jésus. Et en acte 10, nous n'avons pas le temps de nous arrêter sur tous les passages, mais à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée italique pieux, craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple, priant Dieu continuellement, vit clairement en vision, environ vers la 9e heure du jour, un ange de Dieu entrant auprès de lui et lui disant, « Corneille !» Et fixant les yeux sur lui, étant tout effrayé, il dit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Il lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. » Remarquable ce début de chapitre. Un homme des nations, un homme qui a une autorité sur ses semblables, et il est dit de lui qu'il est pieux, il a donc une relation intime avec Dieu, il est craignant Dieu, non seulement lui, mais toute sa maison. Et là, tout un enseignement, nous le comprenons. Pour nous, père et mère de famille, grand-père, grand-mère, quel enseignement. Vous savez la place que prend la maison depuis le livre de la Genèse jusqu'à la fin du livre, jusqu'à la fin de nos Bibles, la maison du croyant. Et cet homme entend ces mots, tes prières et tes aumônes sont montées pour mémorial devant Dieu. Et nous lisons plus loin au verset 31, « Corneille, ta prière est exaucée, tes aumônes ont été rappelées en mémoire devant Dieu. » Y a-t-il parmi nous des amis qui peut-être depuis fort longtemps prient pour quelqu'un et constatent que ce quelqu'un ne donne aucun signe de réponse à de telles prières? Ne soyez pas découragés, frères et sœurs. Lisez à la maison le chapitre 10 des Actes. Tes prières et tes aumônes sont montées au mémorial devant Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on intercède, qu'on supplie, et même qu'on crie à Dieu nuit et jour. Nous avons tout cela dans nos Bibles. Dieu a voulu qu'on sache que dans tous les temps, des croyants ont prié, ont rendu grâce, mais qu'ils ont intercédé, le cas d'Abraham est typique, qu'ils ont supplié, tant c'était pressant, et même crié à Dieu nuit et jour, le cas de Samuel, et Paul en parlant aussi de lui-même et d'autres. Ne soyons pas découragés. Une sœur m'a dit à son lit de mort, j'ai prié pendant 20 ans pour une personne. Je ne sais rien, c'est peut-être toi qui sauras un jour. Et cela, c'était dans l'année 49. Et en 89, j'ai vu lors d'une réunion particulière, deux dames s'approcher, me dire qu'elles étaient au Seigneur. C'était les filles de cette femme pour laquelle une sœur avait tant prié. Ne craignons pas, bien-aimés, d'intercéder pour quelqu'un. Tes prières et tes aumônes. Et ce qui est très beau dans ce chapitre 10, c'est que Corneille est vu en prière et Pierre, qui est pressenti de la part de Dieu, pour aller apporter un message particulier à Corneille, à sa famille et à ses amis, Pierre est vu lui aussi en prière. Je crois que nous avons cela au verset 9. Or, le lendemain, comme ils marchaient et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit pour prier vers la sixième heure. Donc, un homme qui cherche, qui prie, un autre qui a un message particulier à donner et qui prie lui aussi et qui va apprendre au travers d'une vision particulière que le salut est non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les nations. Il y a tout un enseignement dans ce chapitre qui pourrait être développé durant plusieurs réunions, nous le comprenons. Mais ce Dieu qui nous aime, qui connaît les besoins des cœurs et qui prépare quelqu'un, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie mineure, que ce soit dans le monde entier, prépare quelqu'un qui va apporter le message qui doit être donné en temps et lieu. Cette grâce universelle qui ce soir court encore, en avons-nous conscience, mes amis? Pour apporter peut-être ce mot au bon moment, à ceux qui s'en vont au devant du jugement, sans espérance, sans Dieu. Le cas d'Ézéchiel est à retenir, ce jeune sacrificateur qui a vu des choses remarquables dans le premier chapitre de son livre, en rapport avec la gloire de Dieu, mais avec le jugement de Dieu. Cet homme qui, au chapitre 2, a entendu la voix de Dieu. Cet homme qui, au début du chapitre 3, à manger la parole. Au verset 10 du chapitre 3, l'Éternel lui dit, « Ce que je te commande à dire à ce peuple, ces paroles, reçois-les dans ton cœur. » Nos têtes ont enregistré beaucoup de choses, mais attention, il est beaucoup question du cœur dans l'Écriture. Et c'est dans ce même chapitre 3, Ézéchiel, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Si tu avertis le méchant et qu'il n'écoute pas, tu es quitte. Mais si tu ne l'avertis pas et qu'il meurt dans son péché, son sang te sera redemandé. Que le Seigneur nous accorde, chers amis, d'être des Philippe, d'être des Ananias, d'être des Pierre, qui apportent ce mot, sans éclat peut-être dans le particulier, dans le travail, sur la route, ce mot qui va toucher un cœur, amener quelqu'un au Seigneur pendant qu'il est temps. Et c'est très beau la réaction de ce Corneille, de sa famille et des amis, quand il dit au verset 33, « Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné de Dieu. » Quand nous franchissons le seuil du local et que nous avons préparé la réunion par la prière, chers amis, en demandant au Seigneur qu'il donne la parole à propos et que nous pouvons lui dire, comme cet homme des nations, maintenant, nous sommes tous présents devant Dieu pour entendre ce qu'il a à nous dire par le moyen de l'un ou de l'autre, conduit par l'Esprit de Dieu. Eh bien, que de tels passages nous encouragent, et je le répète, nous fassent apprécier cette grâce qui atteint jusqu'aux cieux, cette grâce qui appelle notre regard à se porter, à s'arrêter sur une personne, sur la parole qui est venue habiter au milieu de nous. Comme dit Jean dans le premier chapitre de son livre et au verset 14, que notre désir soit d'aimer celui qui nous a aimés le premier, de le suivre simplement, humblement, de le servir. Parce que souvent, suivre et servir, ce sont des jumeaux. Ils sont ensemble. Il est question, à la fin des évangiles, de plusieurs évangiles, des femmes qui avaient suivi et servi le Seigneur depuis la Galilée jusqu'à la croix. Je rappelle cela pour encourager nos sœurs, bien sûr. Aimer, servir Jésus, publier ses vertus. En l'attendant du ciel, quelle part bénie est pour les jeunes et pour les aînés, jusqu'à ce qu'il vienne. Et il vient bientôt. C'est l'un des derniers mots de nos Bibles. Je viens bientôt, bientôt. Oh.